Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les matins jusqu'à 9h en temps universel, 10h heure de Paris, avec dans un instant votre rendez-vous quotidien avec la rédaction des RFI. C'est l'occasion de nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons tout au long de la journée sur l'antenne des RFI. Pour nous contacter, un seul numéro de téléphone, le 33 1 53 92 64 40. Si vous nous appelez de France, vous composez le 01 53 92 64 40. Et puis en deuxième partie d'émission, je vous propose de débattre sur la situation au Tibet. Nous reviendrons évidemment, et l'essentiel de vos réactions porte évidemment sur les réactions de la communauté internationale, réactions prudentes, modérées après les émeutes de la semaine dernière. Vous savez que la répression au Tibet pose une fois de plus la question du boycottage des Jeux Olympiques de Pékin qui commence dans tout juste 5 mois. D'ailleurs, cet appel au boycott lancé par des personnalités, par de nombreuses associations, et finalement très loin de faire l'unanimité. Nous en parlerons là aussi grâce à vos appels, vos commentaires. Avant de passer au standard et de prendre d'ailleurs quelques questions sur la situation au Tibet, je vous rappelle tout de même l'émission, le rendez-vous de demain. Demain 20 mars, journée internationale de la francophonie. Nous serons pour l'occasion à la Cité internationale universitaire de Paris. Alors la Cité internationale, vous le savez, accueille des milliers d'étudiants, 6000 étudiants étrangers. Et nous verrons pourquoi tous ces étudiants, comme des millions d'autres à travers le monde, ont décidé de poursuivre leurs études supérieure en français. Quelles sont finalement leurs motivations? Est-ce que la langue française est encore utile aujourd'hui? Que signifie pour eux être francophone? Qu'attendent-ils de la francophonie? Nous lancerons le débat avec tous ceux qui nous rejoindront sur place à la Cité universitaire, à la résidence Lucien Paille, hein, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Et évidemment, si vous nous écoutez à travers le monde, que vous suivez vos études en français, vous êtes également les bienvenus. Vous pourrez témoigner durant l'émission. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant en appelant le standard de l'émission. Nous passons donc tout de suite au standard avec une première question qui nous vient de Brazzaville. Roland, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Roland.
Juan, j'ai deux questions à poser.
Oui.
Sur le retrait de la Chine des pays considérés comme violateurs des droits humains. Non, ma première question est la suivante. Pourquoi les États-Unis ont retiré la Chine de leur liste de pays violateurs des droits de l'homme? Est-ce du fait que la Chine organise les Jeux Olympiques cet été et que les États-Unis éviteraient d'avoir de mauvaises relations par rapport à cet événement?
Alors on, on va répondre à cette première question avec Véronique Guémard qui est à mes côtés. Bonjour Véronique.
Bonjour Juan.
Alors tous les ans, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, donc le département d'État, publie son rapport annuel, effectivement, sur les droits de l'homme dans le monde. La Chine figure toujours sur ce rapport. Roland est allé un peu trop vite en disant que la Chine a été retirée des pays qui violent les droits de l'homme. Mais alors Roland parle de liste. Effectivement, nous, sur l'antenne des RFI, on a également parlé de liste, mais officiellement, le département d'État n'a publié aucune liste.
Alors, il ne s'agit pas de liste, il s'agit de rapports annuels que le département d'État publie. Depuis 1977, tous les ans, ce département d'État publie une liste à la demande du Congrès. Donc, le 25 février, tous les ans, le département d'État doit présenter ses rapports. Ils ont commencé en 1977 avec 82 pays, à peu près, qui étaient des pays qui recevaient de l'aide américaine. Aujourd'hui, il y a 196 pays dans ce rapport et donc pratiquement tous les pays de la planète sont concernés. Alors, il n'y a pas véritablement de liste. Le département d'État se défend d'établir une liste, un ranking avec les plus vertueux et les plus mauvais en matière de respect des droits de l'homme. Mais ce qui apparaît dans l'introduction du rapport, et c'est ça qui a été relevé, je pense, par toutes les agences de presse et à juste titre sans doute, c'est que il y a deux petites phrases qui sont assez éloquentes dans l'introduction. D'abord, je cite, les pays où le pouvoir est concentré dans les mains de dirigeants irresponsables qui constituent les plus violateurs de droits de l'homme. Donc dans cette liste, il y a la Corée du Nord, la Birmanie, l'Iran, la Syrie, le Zimbabwe, Cuba, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, l'Érythrée et le Soudan. Et puis, certains pays autoritaires qui sont en pleine réforme économique, qui ont pu obtenir des changements sociaux rapides, mais qui n'ont pas effectué de réformes politiques démocratiques et continuent de dénier les libertés et droits fondamentaux à leurs citoyens. C'est le cas de la Chine. Donc, en fait, il y a ces deux catégories.
Alors, il se trouve que l'année dernière, la Chine figurait dans la catégorie des pays les plus violateurs.
Les plus violateurs. Alors pourquoi le département d'État ne veut pas se prononcer là-dessus? Donc c'est difficile d'obtenir des réponses. C'est certainement un choix stratégique. Mmh. C'est certainement parce que la Chine est une énorme puissance mondiale et que les États-Unis veulent profiter des échanges commerciaux avec ce pays. Les JO, est-ce que c'est une raison? Je ne sais pas si c'est vraiment une raison cette année, mais en tout cas, il est clair que la Chine ne va pas déclarer un boycottage des Jeux Olympiques et qu'ils vont continuer à vouloir commercer avec ce grand pays.
En tout cas, malgré ce changement de catégorie, la Chine continue toujours à être épinglée, évidemment, par le département d'État sur la situation des droits de l'homme sur place.
Oui, et d'ailleurs, sur le rapport, si on se réfère donc aux pages du rapport, on voit que le rapport sur la Chine est assez conséquent, il est assez important.
Il affirme que le régime chinois continue à harceler, à emprisonner, à torturer des journalistes, des écrivains, des avocats, et le rapport précise que le bilan du régime chinois en 2007 est mauvais. Voilà. Ce sont les termes du rapport. A-t-on répondu à votre première question, Roland?
Oui, je suis quand même édifié. Ma deuxième question est la suivante. Pourquoi, en retirant la Chine de cette liste, les États-Unis ajoutent, par rapport au rapport, l'Érythrée, la Syrie et le Soudan?
Alors, l'Érythrée était déjà considérée l'année dernière, il me semble, comme étant un des pays les plus violateurs, mais effectivement, la Syrie et le Soudan sont désormais qualifiés de cette façon.
Oui, alors ça encore, c'est un choix stratégique des Américains. Quand on sait qu'ils mènent cette fameuse guerre contre le terrorisme, que le Soudan est une des situations qui est examinée aussi, considérant le Darfour, si on voit également donc toutes les tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Syrie au niveau politique, donc sur par rapport au régime syrien, par rapport à la question des attentats au Liban, il y a un certain nombre d'éléments politiques qui viennent s'ajouter évidemment au choix de placer certains pays dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre de cette introduction de ce rapport qui est présenté par le département d'État américain.
Voilà Roland, merci d'avoir appelé de Brazzaville. Je vais me faire le porte-parole de Stéphane qui nous a contacté de Niamey. Malheureusement, les lignes ne passent pas là avec le Niger. Il nous dit finalement à quoi sert cette liste. Lui revient sur le terme liste, c'est normal, c'est le terme qu'il a entendu sur les antennes. À quoi sert donc ce rapport? Y a-t-il des sanctions? Y a-t-il des boycotts envisagés?
Il n'y a pas de sanctions. Alors c'est déjà peut-être qu'on peut revenir sur les critères, c'est-à-dire sur quels critères les États-Unis s'appuient pour établir cette liste. Alors d'après le département d'État, ce sont des informations qui sont récoltées sur le terrain, des différentes ambassades, de leurs représentations à l'étranger, qu'ils croisent avec des rapports de l'ONU, qu'ils croisent avec des rapports d'organisations internationales, régionales, la presse, des ONG. Enfin voilà, donc tout est centralisé dans un bureau qui s'appelle le Bureau pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail.
Au département d'État,
Washington. Donc, ils récupèrent toutes ces informations et ils établissent des rapports, donc, par pays. Alors, c'est un rapport qui passe aussi en revue les instruments internationaux, quels les États ont adhéré, ceux qu'ils ont ratifié, les conventions, les questions en termes de liberté d'expression, de torture, etc. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir quel est l'impact de ce rapport. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, effectivement, des sanctions, mais qui ne sont pas directement liées, puisque de toute façon, il n'y a pas de liste officielle. Il y a des listes officielles, par exemple, des listes de pays qui appuient le terrorisme. Mmh. Et à partir de ces listes officielles, il y a des sanctions. Là, il ne s'agit pas d'une liste officielle, donc il n'y a pas officiellement de sanctions. Ce qui peut se passer, c'est que des bailleurs de fonds s'inspirent de cette liste et peuvent, à ce moment-là, refuser l'octroi de certains prêts. On ne sait pas très bien, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier, finalement, l'impact de ce rapport. Mais c'est certain qu'il a un impact. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont déjà réagi.
Notamment la Chine.
Notamment Moscou a aussi réagi en dénonçant l'hypocrisie des États-Unis.
Oui, c'est aussi à peu près la même réaction à Pékin. Donc, voilà.
C'est exactement. Alors, effectivement, ça pose un certain nombre de questions par rapport à des rapports beaucoup plus crédibles de certaines ONG internationales.
Merci Véronique Guémard d'être venue répondre à ces différentes questions. Allez-y, oui, pour...
Une une chose, c'est effectivement, on peut se poser la question de ce rapport quand on connaît les violations commises par les États-Unis eux-mêes en ce qui concerne Guantanamo, Abu Ghraib, etc. Mmh. Et sachant que les États-Unis ont ratifié un certain nombre de conventions eux-mêmes. Voilà.
Qu'ils n'en respectent pas.
Ne respectent pas.
Il est 9h21 à Paris, 01 53 92 64 40. Vos questions à la rédaction. Avant de lancer le débat dans quelques minutes sur la situation au Tibet et sur les différentes réactions à travers le monde, beaucoup de questions évidemment et on le comprend. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
J'aimerais savoir s'il y a-t-il un lien entre les manifestations qui ont lieu au Tibet et les prochains Jeux Olympiques en Chine. Ça, c'est ma première question. Mm-hmm. Et la deuxième, j'aimerais savoir, est-ce que les Tibétains profitent-ils de cette visibilité médiatique du monde entier leur pays pour mettre en lumière les revendications.
Alors, y a-t-il un lien entre les manifestations au Tibet et les Jeux Olympiques en Chine ? Alain Renon, bonjour.
Bonjour.
Alors, y a-t-il un lien probablement, on ne sait pas, en tout cas pour les autorités de Pékin, oui, puisqu'elles accusent clairement le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains, d'avoir orchestré, fomenté les manifestations de la semaine dernière pour, je cite, « saboter les JO ».
Oui, ce qui semble peu probable, très honnêtement. En revanche, qu'il y ait à la faveur de cette, comme disait notre auditeur d'ailleurs, attention internationale liée aux Jeux Olympiques d'août prochain et que du coup les manifestations qui ont lieu tous les ans, c'était la 49e année consécutive de manifestations en ce mois de mars qui commémore pour les Tibétains de l'intérieur comme de l'extérieur en exil, notamment en Inde, le départ forcé en exil du Dalai Lama, que cette année les manifestations aient pris plus d'ampleur en partie à cause du fait que nous sommes en année olympique, ça c'est très probable. En revanche, ce qu'on soupçonnait peut-être peu, c'est qu'à la faveur aussi de cette année olympique, les frustrations accumulées, les humiliations accumulées depuis longtemps, depuis 1950, depuis l'invasion chinoise au Tibet, avec une politique de répression culturelle, de répression linguistique, de répression sociale et de répression ethnique, on va dire, identitaire évidente dans cette région occidentale de la Chine, et bien que les manifestations explosent ou prennent de l'ampleur à la faveur donc de cette année olympique, oui. Sans doute.
Alors, il y a effectivement.
Mais sans calcul et sans ordre, très vraisemblablement, sans ordre venu de Dharamsala, du Dalai Lama ou venu des moines à l'intérieur du pays. En revanche, ils ont été rejoints dans ces manifestations systématiques annuelles du mois de mars. Ils ont été rejoints par de très nombreux laïcs à Lhasa et dans d'autres villes des régions, des provinces périphériques du Tibet, dit autonome aujourd'hui.
Et en même temps, au moment de ces commémorations, l'Assemblée chinoise se réunissait à Pékin, comme tous les ans.
Comme tous les ans, au même moment, c'est-à-dire au mois de mars.
Ouais, au même moment. A-t-on répondu à votre question, Fabrice ?
Il a répondu à la première question, mais la deuxième n'a pas répondu.
La deuxième, c'était sur la visibilité médiatique.
Sur la visibilité médiatique, c'est très très connexe à votre première question, Fabrice. C'est-à-dire qu'effectivement, là encore, vous le verrez, il y a moins de revendications par les manifestants de l'intérieur que de manifestations de colère. Donc c'est pas profitons de la visibilité ou de l'intérêt porté à la Chine en général et au Tibet en particulier, parce qu'il y a une sensibilité, grâce à la figure charismatique du Dalai Lama, une sensibilité internationale à la question spécifique du Tibet. Mais je ne crois pas que ça soit pour autant que les manifestants que vous avez peut-être vus sur des images très sélectionnées par la télévision chinoise, mais vous avez peut-être vu que ce sont des manifestants en colère qui font la chasse aux magasins Han, chinois ethniques, qui peuplent de plus en plus cette région dite autonome du Tibet. C'est plus cette colonisation de peuplement, c'est plus les symboles de la sinisation du Tibet qui étaient attaqués qu'une volonté d'instrumentaliser l'intérêt porté à la Chine à cause des Jeux pour faire valoir ses revendications. C'était plus de la colère que de la revendication.
Aimé nous rejoint, il est à Rabat au Maroc. Bonjour Aimé.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci, j'ai deux questions qui portent sur les violences actuelles au Tibet et en Chine. La première question, je voulais savoir quelles sont réellement les revendications des Tibétains. Est-ce qu'ils veulent l'indépendance ou bien ils veulent une autonomie?
Alors, Alain Renon, sur l'indépendance, c'était en tout cas la revendication du Dalai Lama il y a plusieurs années. Depuis, il est revenu un peu...
Plusieurs dizaines d'années.
Depuis, il est revenu tout de même sur cette exigence.
Oui, très clairement, qui d'ailleurs est systématiquement non entendu volontairement par les autorités de Pékin. Ça fait déjà près de 30 ans que le Dalai Lama, clairement, et que son administration, son gouvernement et l'administration centrale tibétaine en exil à Dharamsala, en Inde, revendiquent une autonomie tout simplement réelle, une véritable autogestion accordée aux Tibétains sur leurs terres, et notamment du Tibet dit autonome depuis 1965, mais dans une version purement administrative et formelle par le régime communiste chinois de Pékin. Ce qu'il revendique, c'est non seulement une véritable autonomie et pas simplement ce nom attaché à quatre régions ou cinq régions aujourd'hui en Chine, qu'elle ne soit pas de papier, mais qu'elle soit réelle. Or, l'influence du Parti communiste, parti unique en Chine, et l'influence des Han, c'est-à-dire des Chinois ethniques non tibétains au Tibet, dont le nombre ne cesse de grandir car il y a une véritable colonisation de peuplement, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment sur l'assimilation linguistique, le tibétain est en voie de, pas de disparition, mais économiquement, socialement, dans l'éducation, c'est une langue en perdition par rapport au mandarin qui s'impose partout, et vous ne trouverez pas de travail même au Tibet en ne parlant que tibétain. Donc c'est cette réelle autonomie, la reconnaissance de la culture tibétaine, et puis, et ça c'est inadmissible pour Pékin, le Dalai Lama revendique l'autonomie pour le Tibet historique, c'est-à-dire non seulement ce Tibet autonome décrété en 1965 par Pékin, mais les provinces voisines, le Gansu, le Sichuan, le Qinghai et le Yunnan, et ça représente, tenez-vous bien, si on accorde une autonomie aux Tibétains sur cette région, une réelle autonomie, c'est un tiers, 34% même, du territoire chinois.
Ah oui. Alors, réelle autonomie, c'est ce que réclame le Dalai Lama. En même temps, il ne fait pas non plus l'unanimité sur ce point-là. Il y a quand même, on va dire, ce qu'on appelle des radicaux, et notamment la jeunesse, le congrès de la jeunesse tibétaine, qui continue, en revanche, à revendiquer l'indépendance.
Vous avez raison, mais sa voix est quand même prépondérante à l'intérieur comme à l'extérieur, la voix du Dalai Lama, mais il y a particulièrement à l'extérieur, parmi les générations exilées, et il en est né en exil, une revendication chez des jeunes, des trentenaires, quarantenaires, effectivement une revendication beaucoup plus radicale et qui veut l'indépendance totale du Tibet.
Ah, il nous reste encore à peine 3 minutes, Aimé, vous aviez une autre question ?
Oui, exactement. Ma deuxième question se porte également, je voulais savoir par rapport à l'historique, depuis quand sont-ils opprimés par les Chinois ?
Alors, vous avez parlé, Alain Renon, vous avez cité tout à l'heure l'année de 1950, qui est une année évidemment importante pour le Tibet.
Mais imaginez, octobre 49, les communistes l'emportent, les troupes de Mao rentrent dans Pékin, octobre 1950, invasion du Tibet pour libérer les Tibétains de leur indépendance de fait, c'est ironique mais c'est réel. Il s'agissait de les libérer du féodalisme, de la tutelle des moines sur des relations tribalo-ancestralo insupportables pour la révolution maoïste. Et donc il y a une invasion militaire en 1950, il y a des moments d'entente à peu près, ou de mésentente avec le Dalai Lama, et puis en 1957, après une insurrection armée en 1956, il est expulsé littéralement, donc, et manu militari par les Chinois. Donc l'oppression, elle commence en 1960 avec l'invasion militaire.
Ouais, effectivement. Et puis il y a eu des émeutes. Les émeutes de la semaine dernière sont les plus importantes depuis 89.
Il y avait eu d'énormes mouvements. C'est un certain Hu Jintao à l'époque qui avait été envoyé comme numéro 1 du PC là-bas. C'est le président chinois d'aujourd'hui.
Actuel,
on l'a quand même surnommé depuis le boucher de Lhasa, car il y avait eu des dizaines et des dizaines de tués dans une répression extrêmement violente. Et juste un tout petit mot quand même sur les revendications des jeunes et des moins jeunes et de tous ces laïcs qui se sont joints aux moines pour ces manifestations depuis le début de la semaine dernière. Vous avez là une exaspération de gens qui sont discriminés réellement, et c'est vrai aussi au Xinjiang chinois, la région qui est juste au nord du Tibet où vivent les Ouïghours musulmans. C'est la même politique de sinisation qui passe par une discrimination, un racisme systématique. Vous parlez, je parle le mandarin, vous êtes chinois, Han, ethnique, je suis tibétain, Ouïghour, vous aurez le boulot, même si je suis supérieur à vous en compétence, vous aurez le travail, je ne l'aurai pas, pour des raisons de discrimination. discrimination purement ethnique.
Alors il y a d'autres auditeurs qui passaient au ton standard, notamment pour réagir aux événements de la semaine dernière, mais aussi pour poser encore des questions. Est-ce que vous avez le temps de rester avec nous juste après le journal?
Oui.
Voilà, merci. Vous continuez à nous appeler. 01 53 92 64 40. On prendra encore quelques questions. Et puis surtout, on vous écoutera sur la situation au Tibet, sur les nombreuses réactions à travers le monde, réactions modérées, il faut le dire. Et puis sur ces nombreux appels au boycott, des appels qui ne sont peu écoutés, en tout cas au niveau des différents...